France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée, autrice, réalisatrice et documentariste, a choisi d'évoquer un texte suffocant, obsessionnel, entêtant. Un texte qui, à sa parution en 2001, a eu l'effet d'une déflagration mais a été si mal lu. Pris pour le témoignage d'une travailleuse du sexe, il était avant tout un grand geste littéraire. Ce livre, c'est Putain, de Nelly Arcand.
Au moment où j'ai commencé à écrire, j'ai pas pensé à ce que je voulais écrire. C'est venu tout seul. Et je dois dire qu'une grande partie du sens de ce que j'écris m'échappe. Et après coup, j'ai pensé à ces prières que j'ai récitées enfant. Interminablement, je vous salue Marie, notre Père qui êtes aux cieux, et que je répétais plusieurs fois de suite, donc avec ce ton un peu monocorde, exalté, et il fallait pas que ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a la forme de la prière, l'aspect apocalyptique, mais le contenu est changé. Soudainement, on ne parle plus de Dieu dans le lointain, dans le ciel, mais de ce qui se passe réellement dans sa vie. Donc, il y a une forme de religieux, mais je dirais assez sans la foi. C'est une prière qui a perdu l'espoir d'être entendue. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ça s'acharne à dire quelque chose qui ne se dit pas, en fait.
Bonjour Ovidie.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes réalisatrice de films et de séries, documentariste pour la télévision et la radio à France Culture, entre autres, je le précise.
Absolument.
Et autrice. De vous vient de paraître Slut Shaming, faire payer les femmes, c'est paru aux éditions de La Découverte. Alors vous avez choisi de parler de Nelly Arcand, dont on vient d'entendre la voix. Vous avez mené un travail de thèse sur son œuvre, vous la citez dans vos ouvrages. Finalement, vous ne pouviez pas choisir quelqu'un d'autre que Nelly Arcand dans ce souffle de la pensée.
Non, pour moi, c'était une évidence. Et c'est vrai que quand on s'est posé la question de quel livre on allait parler aujourd'hui, ce texte-là, il me colle tellement, il me hante aussi, je crois. On ne pouvait pas choisir un autre livre que celui-là.
Qu'est-ce que vous entendez par hanter? Vous en rêvez? Vous faites des choses et tout à coup, vous y pensez?
Je crois que de façon très claire, je suis hantée aussi par le fantôme de Nelly Arcand, en fait, hein, qui est aussi une menace qui plane sur toutes les femmes qui ont eu l'outrecuidance de montrer leur corps ou de travailler avec leur corps, ce qui a été le cas de Nelly Arcand, qui a travaillé comme escort girl pendant quelques temps quand elle était étudiante en littérature à Montréal. Et je pense qu'il y a un prix à payer pour ça. Elle a payé le prix fort, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc je suis hantée par son fantôme, parce que je me dis, Nelly Arcand, finalement, ça pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Et ça pourrait mal se terminer comme avec Nelly Arcand, finalement.
On peut peut-être tout de suite préciser quand même ce qui s'est passé pour Nelly Arcand, qui, oui, voilà, effectivement, vient d'une famille, elle en parle dans son livre, moyenne, elle a eu une éducation religieuse, elle parle des bonnes sœurs au début. Elle a pris des cours de piano, elle jouait pas très bien, elle disait qu'elle était maladroite. Puis elle est partie, elle a quitté sa campagne pour aller à la ville, à Montréal. Elle est devenue étudiante en littérature et aussi escorte. Et cette expérience, elle en a tiré un texte qui s'appelle Le Putain et qui a eu un succès en 2001 à sa parution qui a été assez dingue, en fait, même à travers le monde. Et peut-être vous pourrez raconter la suite.
Oui, donc le texte est paru en 2001. Il est paru au Seuil, ce qui est assez rare pour une autrice canadienne, surtout sur un texte d'autofiction comme ça. Il n'y avait pas énormément de monde, surtout au Canada, qui faisait de l'autofiction comme ça. Il y avait Marie-Cécile Labrèche, mais on était dans quelque chose d'autre. Et effectivement, ce texte sort, il est fortement médiatisé en France. Nelly Arcand fait, par exemple, l'émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, qui était vraiment l'émission phare de ses débuts des années 2000. Et puis, plus grand-chose. C'est-à-dire, il y a eu un malentendu, je pense, au moment de la sortie du texte. On a pris ça comme le témoignage d'une escort girl. En réalité, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était un geste littéraire. C'est un texte d'une grande puissance, c'est un texte de la suffocation. C'est un texte qu'on lit en apnée, finalement. Et il n'est pas étonnant que, finalement, Nelly Arcan ait fini par manquer d'air, hein, puisque c'est comme ça qu'elle est décédée. Elle s'est suicidée donc en 2009. Je fais un bond de 8 ans dans le temps, mais voilà. Elle est décédée en 2009 par pendaison. Donc... morte de, je suppose, de stigmatisation, parce que donc elle sort ce premier texte en 2001, elle en sort, suite à ce succès, elle en sort un second qui s'appelle Folle, qui est aussi un texte d'autonarration, dans lequel elle raconte finalement ses désillusions, sa désillusion amoureuse. C'est un texte qui porte sur l'amour, on va dire. Et qui a un peu moins de succès, puisque là, on parle moins de, ça parle moins de cul, finalement, pour les gens. Et puis, c'est moins packagé comme un livre qui va parler de sexualité ou quelque chose comme ça, ce qui avait été le cas pour Putain. Putain qui ne parle pas du tout de sexualité, qui n'est pas du tout un texte érotique. Je me souviens que la première édition poche, on a une image d'un tanga, comme ça, en noir et blanc, on dirait une pub au bad, et puis une main qui se glisse dans le tanga, comme si la personne allait se masturber.
Comme si c'était une invitation à ça, d'ailleurs, cette lecture, alors qu'on est vraiment très loin de cet imaginaire et même des sensations que ça procure. C'est pas du tout ça que ça fait quand on le lit, quoi.
Ça n'est pas du tout un texte érotique, mais il faut se rappeler qu'on est en 2001, qui est une période un petit peu curieuse dans le monde de l'édition, qui est une période où on a mis dans un même sac littéraire plein de femmes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, derrière l'étiquette que femmes qui parlent de sexualité, en gros. Donc dedans, il y a eu Nelly Arcan, mais il y a eu aussi Catherine Millet, il y a eu Anne Scott, il y a eu, je sais pas, Christine Angot, Alina Reyes, il y a eu Virginie Despentes aussi à ce moment-là. Donc plein de femmes qui vraiment n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je pense que Despentes n'a rien à voir avec Catherine Millet, par exemple. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a eu un peu cette espèce de d'effervescence médiatique dans ce monde de l'édition où chacun allait chercher son nouveau roman à succès. Et c'est comme ça qu'elle a été vendue, finalement, Nelly Arcan, avec ce premier texte. Donc, d'un côté, ça a été sa chance, puisque c'est ça qui lui a permis d'être découverte. Et d'un autre côté, ça l'a enfermée dans une case et dans un rôle qui n'était vraiment pas du tout le sien.
Donc en 2001, est-ce que c'est le moment où vous découvrez, vous, Ovidie, Nelly Arcan et que vous la lisez malgré cette couverture rebutante ?
Alors, non. Ce qui est intéressant, c'est que
Nelly... Peut-être à cause de la couverture, d'ailleurs.
Non, en fait, Nelly Arcan, moi j'ai sorti un livre très peu de temps après. Donc mon premier livre, c'était Porno Manifesto, il était sorti en 2002. Donc quelques temps après, donc je suis passée, je dirais, chez Thierry Ardisson, quelques temps après Nelly Arcan. Donc je me souviens très bien de son passage à la télé. Donc c'est comme ça, moi, que je l'ai découverte, hein. C'est vraiment par cette émission-là. Et je n'ai pas lu ce texte parce que, justement, un peu rebutée par ce mouvement avec plein de... J'ai cru que c'était un texte érotique. On me l'a vendu comme un texte érotique. J'ai cru que c'était un texte érotique. J'ai dit, OK, je passe, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est vraiment par hasard que plusieurs années après, j'ai lu vraiment son texte et que je me suis pris la gifle du siècle, la gifle littéraire de ma vie.
Qui fait que vous en parlez donc aujourd'hui et que, comme vous l'avez dit, Ovidie, ce texte vous hante. À quel moment vous la lisez ? Est-ce que c'est au moment où elle disparaît ? Parce qu'il faut aussi peut-être souligner le fait que quand Nelly Arcan disparaît, il y a quand même aussi un moment d'oubli qui se met en place et que c'est peut-être maintenant, au milieu des années 2020, à partir de 2020, qu'on la redécouvre. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-elle été oubliée ? Alors, on connaît les mouvements de mode, hein, tout à coup, c'est un phénomène littéraire, et puis le phénomène s'essouffle, et après, voilà, on oublie. Puis là, elle est redécouverte. Qu'est-ce qui s'est passé, vous ? Est-ce que vous avez suivi ce mouvement-là ? Ou au contraire, c'est peut-être au moment où elle était le moins lue que vous vous êtes dit, c'est peut-être là qu'elle m'intéresse.
Moi, c'était le moment où elle était le moins lu, où ses livres étaient en solderie, en maxi-livres, chez Gilbert Joseph, ou ce genre de choses à 2 balles. Moi, je l'ai relu à ce moment-là. Enfin, je l'ai lu, je l'ai vraiment découverte à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, il y a eu tout un processus de légitimation. Donc, elle est décédée en 2009. Moi, je me souviens, son décès m'a marquée quand même. Parce que, de toute façon, d'une façon générale, à chaque fois qu'une femme travailleuse du sexe ou ancienne travailleuse du sexe meurt dans des conditions de stigmatisation, moi, ça, comment dire, il y a une alarme qui se déclenche en moi. Donc, j'avais été vraiment bouleversée par sa mort parce que je me suis dit, mince, elle n'a pas tenu, elle n'a pas survécu à cette stigmatisation. Parce qu'il faut savoir que donc, ce premier livre sort, après il y a Folle qui parle d'amour, après il y a un autre texte qui s'appelle À ciel ouvert qui parle de chirurgie esthétique qui sort, qui là ne parle vraiment plus du tout de sexualité. Et plus ça avance, plus les ventes chutent finalement.
Et quand on n'a plus l'étiquette, on est oublié.
Exactement. Et c'est à chaque fois qu'elle sortait un nouveau livre, elle allait sur les plateaux télé, par exemple sur l'émission Tout le monde en parle, version canadienne. Donc elle est invitée là-bas et elle est humiliée durant cet enregistrement. C'est-à-dire, elle arrive, elle est habillée avec une petite robe noire. Le présentateur lui dit « j'ai bien de la misère à vous regarder dans les yeux. Que vont penser les petites filles qui vont vous voir? Les petites filles vont vouloir ressembler à vous. » Enfin, des choses assez humiliantes. Et à un moment, il lui propose une compétition de bras de fer, sous-entendu, elle a de la force dans le poignet, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, j'ai saisi.
Donc, elle vit des situations qui sont extrêmement humiliantes et qui à chaque fois la ramènent à cette condition d'ancienne travailleuse du sexe. Et c'est dans ces conditions-là, c'est dans ces circonstances-là qu'elle décède donc en 2009. Et moi, ça, évidemment, ça me bouleverse, ça me fait peur. Je me dis merde, elle n'a pas survécu à cette. C'est violent la stigmatisation hein, quand même. Le slut-shaming, c'est vraiment quelque chose.
Oui, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, donc c'est un néologisme d'origine nord-américaine. Voilà, slut, c'est salope. Shaming, c'est
humilié.
Voilà, humilié, la honte. Donc c'est le fait de tout le temps ramener, de tout le temps stigmatiser les femmes à une dimension sexuelle qu'elles auraient peut-être manifestée, mais même pas en fait, pas forcément. C'est la charge sexuelle qu'on leur fait payer.
Exactement, même pas. C'est même pas obligatoire. Ça peut même être le slut. Shaming, on peut aussi le subir après un viol, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir vraiment la cuisse très légère et la sexualité vraiment très olé-olé pour subir le slut-shaming, hein, en fait. Juste une mauvaise réputation, ça peut suffire. Et là, en l'occurrence, avec Nelly Arcan, c'est aussi ce qui s'est passé. Les gens n'ont jamais vu en action, en fait. C'est juste qu'ils savent, ils l'ont étiquetée comme ça. Et donc, elle est forcément liée ad vitam aeternam à la sexualité. Et à cette époque-là, il faut bien le dire, quand même, que ce soit au moment de la sortie de Putain ou que ce soit même au moment de sa mort en 2009, les femmes universitaires au Canada lui ont tourné le dos, ne l'ont pas soutenue, quoi qu'elles en disent aujourd'hui. Nelly Arcan a été quand même très isolée et très, vraiment très seule dans ses stigmatisations parce que je pense qu'elle avait une plastique qui faisait obstacle au discours. C'est-à-dire, elle était refaite, elle avait les cheveux peroxydés, elle avait des faux seins, etc. Donc, elle avait fait beaucoup de chirurgie esthétique, elle a écrit dessus, donc c'est pas un secret. Et je pense que sa beauté faisait vraiment obstacle à son discours et à sa pensée. Elle était trop belle, finalement. Et je pense que pour pas mal de femmes à l'époque, c'était insupportable. Il y a quelque chose qui, du côté des mecs, c'était, ils voyaient que son corps. Mais du côté des femmes, il y a eu aussi une volonté de lui faire payer cette beauté, je crois.
Donc aussi du slut-shaming, vous dites ?
Aussi du slut-shaming. Le slut-shaming, ça peut venir des femmes aussi. Hein. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, c'est bien après, 10 ans après sa mort, qu'il y a eu un processus de légitimation de l'œuvre de Nelly Arcan qui s'est mis en place. Il y a eu la réédition de Putain, déjà. Donc, 10 ans après sa mort, c'est 2019. Il y a eu un colloque à l'EHESS. Moi, j'ai été surprise de voir qu'il y avait des Canadiennes qui étaient là, qui méprisaient son œuvre bien des années avant.
Et qui, dès lors, se revendiquaient.
En marche. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde récupère le texte de Nelly Arcan pour en faire sa propre tambouille. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein de féministes abolitionnistes qui se sont appropriés le texte de Nelly Arcan pour en faire pour prétendre que c'était un manifeste contre la prostitution, contre le travail du sexe, alors que c'était pas ça. Nelly Arcan, elle se plaint pas. D'ailleurs, elle se revendique pas comme féministe. C'est assez intéressant.
Mais c'est ça qui est troublant aussi. C'est-à-dire que quand on lit, au-delà du style, parce qu'il faudra qu'on en parle, Ovidie, parce que le style, il est incroyable. Il est même, il nous met mal. C'est-à-dire, quand vous disiez que c'était un texte suffocant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, il n'y a pas de progression, ça stagne. Elle-même le dit, elle ne fait que revenir sur les mêmes problématiques. Mon père, ma mère, le défilé des queues dans cette chambre d'hôtel. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, qui n'avance pas. Donc, vraiment, on se sent, mais presque, comment dire...
On est dans une pensée en disque rayé.
Exactement. Donc on est vraiment attrapé, on peut pas avancer, puis on aimerait la porter, mais non. Puis alors à la fin du livre, ce qui est insupportable, je pense, quand on la lit, c'est qu'on ne peut pas dire « elle dénonce
non.
la rivalité des femmes entre elles » ou au contraire « elle l'a désirée ». On ne peut pas en fait la mettre dans une case. Et ça, effectivement, c'est difficile. On peut soit du coup lui tourner le dos, soit la récupérer comme on veut.
Ça, c'est vrai que c'est perturbant parce qu'elle est plus nihiliste finalement que féministe. Et pourtant, tous les constats qu'elle peut faire à propos des femmes, à propos de, je sais pas, de toutes les injonctions faites aux femmes, injonctions à la maigreur, injonctions à la jeunesse, injonctions à la beauté, injonctions à la souplesse aussi. Ce qu'elle appelle la souplesse, c'est finalement se conformer à ce que les hommes attendent de nous. C'est ça qu'elle appelle la souplesse. Donc elle parle de tout ça, plein de thématiques qui aujourd'hui sont évoquées par les féministes, mais elle-même ne se revendique pas féministe. C'est-à-dire elle-même pense qu'elle est prise au piège par tout ce système, qu'elle ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'elle continue la chirurgie esthétique, c'est pour ça qu'elle continue les régimes et qu'elle continue tout ça. Elle a cette lucidité de dire que je suis prise au piège.
Mais c'est ça le terme que je cherchais, piégée. On est piégée par le texte. Ouais, aussi.
C'est vrai. Et c'est un texte qu'on peut difficilement poser en cours de route, puisque c'est un texte qui a finalement assez peu de ponctuation.
Oui.
On est un peu dans un texte un peu à la Guyotta, où il n'y a pas de ponctuation et des phrases qui durent des pages et des pages. Donc on ne peut pas fermer le livre et puis s'arrêter et reprendre ses activités.
Puis d'ailleurs, la fin n'est même pas vraiment une fin. C'est-à-dire que vraiment... Alors c'est un texte qui se lit effectivement d'une traite, qui ne peut pas vraiment se poser. On a quoi, à peu près 200 pages et il y a trois grandes parties. Il y a au tout début une forme de prologue où là, c'est presque le moment le plus cadré parce qu'en fait, elle nous dit voilà où vous êtes, voilà qui je suis, voilà d'où je viens. C'est le moment où elle raconte qu'elle a été élevée par... qu'elle a été fait du piano, qu'elle a eu des bonnes sœurs comme maîtresse, qu'il y avait d'autres noms. D'ailleurs, il y a la question du nom qui va revenir énormément. Et voilà, effectivement, c'est un texte...
Elle se rebaptise. À l'instar des bonnes sœurs, elle change de nom.
Exactement.
En devenant travailleuse du sexe.
Et ça, c'est... Et d'ailleurs, la question du nom est vraiment incontournable dans le texte. Comme vous l'avez dit aussi, Ovidie, la ponctuation, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de repère de nom, ça ne sert plus à rien, il n'y a pas besoin de points. Et alors, il y a quand même énormément de virgules, parce que c'est quand même des phrases qui s'étendent sur des pages. Moi, je me suis notée des pages, je me dis, mais quelle est l'idée qui m'intéressait là-dedans, tellement c'est en fait, on est pris dans le flot du texte.
Ouais. Ouais, bah c'est vrai qu'on est pris, comme ça durant plusieurs pages. On est pris en otage presque par toute cette douleur partagée. À l'origine, il me semble que c'était des carnets de psychanalyse. En tout cas, c'est ce que veut la légende. Ce sont des carnets de psychanalyse puisque Nelly Arcan aurait eu du mal à parler pendant les consultations en fait. Et donc son psy lui aurait suggéré d'écrire finalement ce qu'elle-même ne pouvait pas dire durant ses séances. C'est ce qui se dit. Donc, ça peut expliquer ce côté un peu tourné en rond, cette espèce de côté derviche tourneur, là, comme ça, où on fait vraiment du surplace, on n'avance pas.
Ou la prière aussi, comme elle disait dans l'archive au tout début.
Ou la prière, effectivement, cette espèce de répétition atonale, comme ça, sans douleur, parce qu'il y a quand même... Enfin, sans douleur, sans manifestation de la douleur. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fascinant chez Nelly Arcan aussi, c'est qu'elle ne se plaint jamais, en fait. Elle décrit froidement une réalité, mais elle ne chouine jamais, elle ne geint jamais, en fait. Elle est dans quelque chose, dans une description assez... Oui, assez froide et assez atonale de tout ça. Mais concernant le prologue... Moi, je me suis demandé quand même si c'est pas quelque chose, c'est pas une pièce rapportée, c'est pas quelque chose qui a été écrit a posteriori pour pouvoir mieux la situer, pour dire, je me demande si on lui a pas suggéré, bon, écoute, on a quand même besoin de savoir qui t'es, d'où tu viens, ce genre de choses. Mais moi, je suis pas convaincue que ça faisait partie du texte à l'origine.
C'est vrai qu'en plus, elle justifie presque le pourquoi de ce texte. C'est-à-dire qu'elle dit, elle met même carrément les pieds dans le plat. Est-ce que je peux être putain et écrivain en même temps? Et vous allez dire quoi? Et vous allez faire quoi? D'une certaine manière, elle dit oui, et vous voulez savoir quoi d'autre? Et vous voulez savoir ça, et vous voulez avoir ça. C'est vrai que ça peut être une demande aussi de la maison d'édition.
Moi, je me suis demandé, oui.
Alors, quand vous la découvrez, Ovidie, vous dites que ça vous avez une claque vraiment, enfin une gifle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand vous la lisez et quelle est pas l'idée, mais peut-être l'impression qui fait que ça, c'est un texte qui reste?
La lucidité. Pour moi, c'était vraiment une grande révélation. Une modification de mon regard sur le monde, vraiment. C'est-à-dire il y a des livres comme ça qui nous marquent où une fois qu'on les a terminés, on voit plus le monde de la même façon. Alors il y en a pour qui ça reste une sensation éphémère, comme ça où on se dit oh là là, on n'est pas bien pendant 2-3 jours. Moi, ça me hante encore et ça a modifié mon rapport au monde. Ça a modifié mon rapport aux hommes, vraiment. Ça a modifié mon rapport au corps. Et surtout, ça a modifié mon rapport aux injonctions, quoi. Vraiment, quelque chose a changé à ce moment-là. Et plusieurs années après, j'avais écrit un texte appelé « La chair est triste » qui était sorti aux éditions Julliard, qui parlait de grève du sexe, grève de l'hétérosexualité, arrêter de coucher avec des hommes. Et je cite Nelly Arcan en avant-dire. Et je pense que ça a contribué à ça dans mon cheminement personnel. Il y a eu Nelly Arcand et puis après il y a eu un nom d'élitement, je dirais, ou je sais pas de mon hétérosexualité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est mort progressivement avec Nelly Arcand, il me semble. J'ai trouvé que son texte était d'une telle lucidité, tout était incroyablement juste et vrai, tout ce qu'elle disait sur le rapport au corps, tout me concernait en fin de compte, dans son rapport aux hommes, dans tout ça. Enfin, vraiment, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi, mais qu'elle parlait de toutes les femmes, finalement. C'était clair. C'était un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, le Théoden, là, ou je sais plus comment il s'appelle, là, le roi, là, qui a de la cataracte.
Alors, je ne connais pas bien Le Seigneur des Anneaux, donc je vous fais confiance.
Bah, y a un type, un roi, là, qui a de la cataracte, et puis tout à coup, parce qu'on lui a acheté un sort, et puis tout à coup, le sort est levé, et là, il revoit le monde avec d'autres yeux. Bon, bah, moi, ça m'a fait ça, en fait. C'est tout à coup, j'ai revu le monde, sans la cataracte.
Les femmes ont souvent trop de ce qu'elles ont. Elles sont toujours trop ce qu'elles sont, rivées à leur sexe, à ce qu'on en dit, incapables de réinventer leur histoire ou de penser la vie en dehors des sondages de magazines de mode. Inépuisablement aliénées à ce qu'elles croient devoir être, des poupées qui jouissent lorsqu'on veut qu'elles jouissent, des poupées qui ont telle taille, telle coiffure, qui ne veulent rien et qui en veulent toujours plus, qui se masturbent à tout propos et qui n'en ont jamais assez, qui s'occupent tout entière à exciter les hommes, sans autre but dans la vie que se regarder dans la glace et se comparer aux autres, leur cul et leur poitrine, pour vérifier que c'est plus gros, moins bien, parler des hommes et des autres poupées, passer du lit au coiffeur, à la maquilleuse, à la gym, à la boutique, à la manucure, au régime, au chirurgien, au striptease et encore au lit. À l'argent gagné de ça, de la putasserie comme but, de la fascination de soi-même et de l'envie des autres. Enfin, au papotage de tout ça. De la coiffure, du maquillage, de la gym, des fesses et des seins trop petits ou trop bas. De la boutique, de la manucure, du régime, du chirurgien, du striptease et de la baise. Oui, une femme, c'est tout ça. Ce n'est que ça. Infiniment navrante. Une poupée, une schtroumpfette, une putain. Un être qui fait de sa vie une vie de larve qui ne bouge que pour qu'on la voie bouger. Qui n'agit que pour se montrer agir. Et ce n'est pas fini, car il faut qu'elle soit la seule de son genre pour faire son bonheur. L'unique schtroumpfette du village au milieu de ses 100 schtroumpfs.
Extrait de Putain de Nelly Arcand, lu par Anaïs Sisbert. Ce texte, c'est vous qui avez choisi d'en parler, Ovidie, et vous vouliez entendre un moment où Nelly Arcand parle de la schtroumpfette. Oui. C'est une figure qui revient tout au long du texte. Qui est la schtroumpfette? Pourquoi cette figure, tout à coup, qui surgit, qui fait tellement enfantine, tellement presque à côté de la suffocation en fait, du texte de Nelly Arcand?
La schtroumpfette chez Nelly Arcand, c'est presque un concept. Hein. C'est vraiment, ça incarne la volonté des femmes d'être au centre du désir des hommes. Mmh. C'est vraiment ça qu'elle décrit. Et Nelly Arcand est obsédée aussi par la compétition intrasexuelle. Le besoin d'être la plus belle, la plus regardée, d'être vraiment au centre de tout et faire en sorte que l'érection ou la bandaison soit pratiquement le pôle d'orientation de notre existence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ça la schtroumpfette chez Nelly Arcand. Et Nelly Arcand est elle-même une schtroumpfette et elle en a conscience. Elle est blonde, voilà, elle est obsédée par la beauté et obsédée par ce besoin, encore une fois, qu'on la regarde et que les hommes la regardent et qu'on la gratifie, qu'on la complimente pour sa grande souplesse, la souplesse dont on parlait tout à l'heure, qui est cette capacité donc à se plier à leurs désirs. C'est pour ça qu'elle dit « retour au lit », il y a cette histoire de retour au lit qui est constant, sans qu'elle-même y trouve un quelconque plaisir. À aucun moment, elle parle de plaisir, hein, par ailleurs, dans son texte. Et donc voilà, la schtroumpfette, c'est ça, c'est toute cette histoire de compétition intrasexuelle, c'est ce qui divise les femmes pour mieux régner, finalement, pour mieux les asservir. Et voilà, c'est pour ça qu'il me semblait important de lire un passage qui parle de ça.
Mais c'est ça aussi qui fait que ce texte, il est difficilement récupérable. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose qui est loin aujourd'hui de la lecture qu'on aimerait avoir des relations entre les femmes en termes de sororité, par exemple.
Absolument.
Là, c'est les pieds dans le plat, il y a de la rivalité. Et Nelly Arcand, en plus, ne dit pas, elle ne dit pas seulement que c'est les hommes qui fabriquent ça, que c'est la société patriarcale qui fabrique ça. Elle dit, les femmes y vont. En fait, les femmes se regardent entre elles. Elles regardent les magazines pour regarder qui est en train de l'écraser par sa beauté ou pour se rassurer d'être la plus belle.
Ouais, bah, elle est. Il y a quelque chose aussi d'assez agressif dans le fait de voir une autre femme plus belle que nous arriver dans une pièce. Enfin, c'est pas moi qui dis, c'est elle. Hein. Après, on est en 2001. Mm. La société a évolué et les discours féministes ont évolué et effectivement, il y a eu l'arrivée de cette notion de sororité qu'on a pris un peu pour une tarte à la crème au début. On s'est dit, oui, la sororité, mon cul, parce que les femmes continuent à se tirer dans les pattes,
à se regarder,
à se comparer à cause des garçons, voilà. On met des banilons, on se crêpe le chignon. Enfin, bref, on reste toujours un peu dans cette idée-là. Et il y a quand même cette notion de sororité. Elle n'est plus, il me semble aujourd'hui en 2026, elle n'est plus uniquement une blague ou une tarte à la crème. Je pense vraiment qu'elle a pris progressivement tout son sens et que je ne sais pas si Nelly Arcand aurait pensé la même chose aujourd'hui si elle avait publié Putain en 2026. Difficile à savoir, en fait.
Mais vous, comment vous articulez, par exemple, justement, l'idée de vous dire que la sororité, c'est un concept qui n'est pas du tout une blague ou une manière de parler d'une bande de copines qui parle de maquillage entre elles? Parce qu'elle dit, hein, par ailleurs, elle dit, voilà, j'ai des copines, j'ai pas des amis, j'ai des copines qui sont escortes comme moi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on rigole des clients, on se maquille ensemble et on se prête des habits en se disant, j'espère qu'il ne lui ira pas. Qui sera trop petit pour elle parce qu'elle a un trop gros cul, en gros. Ouais. Vous articulez comment, en fait, voilà, ce terme de sororité avec quand même votre amour pour ce texte de Nelly Arcand qui, en fait, refuse aussi, en fait, de se laisser rattraper dans des catégories féministes qui sont, bah, voilà, plus actuelles aujourd'hui.
Alors, elle le formule pas comme ça. Hein. Elle dit pas, moi, je suis pas féministe.
Non, elle le dit pas clairement.
Jamais. Elle est dans un constat qui est... comment dire, un constat d'échec de la société, de la condition féminine. Elle n'est pas en train de critiquer les autres féministes à aucun moment. Elle est plutôt dans une fatalité. Voilà. Et il me semble que c'est pas incompatible. Si elle était radicalement antiféministe, bon, bah, j'aurais du mal aujourd'hui à en parler, en fait. Mais elle est plutôt face à un constat, face à une certaine fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle croit à ce moment-là, en 2001. Moi, encore une fois, il me semble que les discours et la pensée a évolué sur cette question-là. Mais pour moi, ce n'est pas antiféministe que de soutenir le texte de Nelly Arcand, en tout cas. Quoi. Enfin, moi, je n'ai aucun problème à l'articuler avec ma pensée aujourd'hui, en 2026. Quoi. Puisque ce qu'elle décrit est de toute façon toujours valable. Et cette compétition intrasexuelle, elle existe quand même toujours. Cette servitude volontaire, elle existe toujours. Et on a beau... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beau avoir conscience... De la provenance de notre oppression, de notre asservissement, c'est pas pour ça qu'on s'en libère en un claquement de doigts, quoi. C'est-à-dire, moi, je peux vous dire, par exemple, quelles sont les injonctions dont je n'arrive pas à me défaire, par exemple. Et pourtant, c'est pas parce que j'en aurai conscience que j'arriverai à m'en libérer du tout. Donc, faut bien avoir conscience de ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas, par exemple, de bonnes féministes qui vivent absolument toujours complètement, qui sont en accord avec leurs principes. Enfin, je pense qu'on est pétri de contradictions et que ce texte l'est aussi, d'une certaine manière.
D'ailleurs, on a l'impression au long des pages que Nelly Arcand ne fait qu'explorer ce paradoxe qui est à la fois de dire « je veux être une schtroumpfette absolue, la schtroumpfette suprême », mais ça veut dire aussi manipuler. Faut pas oublier quand même que la schtroumpfette, c'est quand même une création
de Gargamel
pour mettre la zizanie entre les schtroumpfs. Donc finalement, elle le sait. Mais en même temps, elle est prise au piège elle-même en se disant « je suis à la fois une créature, un produit, et puis je vais bien rentrer dans ce rôle-là, et je vais être belle, avec des gros seins, avec une jolie bouche, et surtout en ne disant rien, tout en même temps en ne faisant que dire, c'est-à-dire mais même parfois vomir ce silence qu'elle devrait avoir. »
Je me souviens que la schtroumpfette, à la base, elle est brune, elle n'est pas blonde. Et il me semble, là j'ai un souvenir des schtroumpfs, mais il me semble que pour la perturber, c'est le grand schtroumpf. Mm. Il modifie son reflet dans le miroir et elle se perçoit plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Et c'est ça qui l'a fait vriller, la schtroumpfette. Je me rappelle plus exactement précisément, mais je me souviens qu'il modifie la perception qu'elle a d'elle-même dans le miroir. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bien sûr comme ça qu'on a servi les femmes, c'est en perturbant comme ça la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et en faussant finalement ce rapport à sa propre image, quoi.
Et on a bien entendu dans le texte aussi, alors il n'y a pas de points d'ailleurs, hein, dans le texte qu'on a fait lire, les points sont bien avant et bien après, c'est vraiment au milieu d'une phrase, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des longues phrases de Proust, mais là en fait je pense qu'on pourrait parler des très longues phrases de Nelly Arcan, où il y a un effet, on l'a dit, vous l'avez dit Ovidie, de disque rayé, mais aussi d'accumulation, où en fait tout ne fait que revenir, le lit, aller au sport, le lit, le régime, la chambre, vous regardez les autres femmes, se regarder. C'est-à-dire que c'était vraiment un effet même. Mais elle décrit, sans dénoncer en fait, quelque chose de quotidien. C'est-à-dire elle le caricature, mais en fait, c'est aussi tout à fait ordinaire.
C'est très ordinaire et on ne peut vraiment pas s'en sortir. Moi, c'est cette honnêteté-là aussi qui m'a bouleversée dans ce texte, c'est que dans ce cercle, dans ce disque rayé, il est absolument impossible de trouver une sortie, une quelconque issue, quoi. Donc,
ça vous a pas désespéré ?
Si, mais moi je suis quelqu'un de très pessimiste.
Donc moi ça me va.
Moi j'étais quand je
vous
l'ai
étiez
vu,
déjà
je dis,
au
mais
courant.
Oui, bien sûr, complètement d'accord, évidemment, c'est une évidence, il y a pas de souci. Donc non, ça m'a. Non, ouais, moi, je crois que je suis suffisamment pessimiste sur les relations hétérosexuelles que vraiment. Puis je suis tellement en accord avec chaque ligne de ce texte aussi que.
C'est vrai.
Mais ouais. C'est d'une telle violence, c'est d'une telle brutalité, et en même temps, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'une telle lucidité. Après, je suis en train de dire ça, si ça se trouve, je vais retomber sur une ligne ou une phrase en me disant « Ah non, elle a vraiment déconné ». Mais non, je crois vraiment que...
Il y a une ligne, à un moment donné, où quand même, elle déplore le fait de ne pas avoir été violée étant petite fille. Voilà, elle...
Ah, c'est marrant, mon cerveau, il a effacé cette...
Bah, en général, tout est caricaturé dans des souvenirs, mais voilà, elle parle de l'hyper-sexualisation, en fait. Enfin, nous, on appelle ça aujourd'hui hyper-sexualisation, c'est pas dit comme ça.
C'est vraiment bizarre, oui, de ce qu'elle décrit de ses parents. Elle traite sa mère de larve. Elle dit, en fait, qu'en gros, elle divise les femmes en deux. D'un côté, les larves, et de l'autre côté, les schtroumpfettes.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On l'entend dans le texte. Il y a vraiment la putain, la schtroumpfette, la larve. Mais il y a vraiment la larve qui est vraiment l'antimodèle, et c'est sa mère.
C'est sa mère qui justement ne joue pas ce jeu du désir et qui a plutôt abdiqué, non, c'est elle qui le dit, qu'elle a abdiqué face au désir des hommes. Et donc pour ça, elle la méprise finalement.
Alors c'est une super résistance aussi. Mais en fait.
Absolument, absolument.
Là on pourrait dire, en fait, est-ce que Nelly Arcan, elle a perçu la puissance de la larve, de la larvitude ?
Après, ce qui est assez étonnant, mais c'est là où on voit que c'est de l'autofiction, c'est pas du témoignage, donc il y a une part de faux dans l'autofiction. Mais elle est vraiment très dure avec sa mère, alors que dans la vraie vie, je crois que sa mère était une personne très aimante, son père aussi. Elle avait des relations avec sa mère qui sont loin de celles qu'on pouvait imaginer dans le texte.
Si on s'en tient à putain, effectivement...
C'est dur hein, pour les parents.
C'est horrible. Donc il y a d'un côté, pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas le texte, c'est vraiment une mère dépressive qui passe son temps dans un lit, elle larve dans le lit.
Ouais.
Et puis, il y a le père qui est en fait fou de Dieu et voit le mal partout. Et elle raconte, la narratrice raconte dans Putain qu'elle montre un dessin d'enfant qu'elle a fait, qu'une maison, et puis la cheminée de traviole sur le toit, et puis un soleil qu'elle a fait avec des beaux rayons rouges, et lui dit « il est là le mal ». Il est dans ses flammes rouges, le mal est à l'œuvre, et donc elle dit qu'elle a été complètement perturbée en fait par ses deux parents qui en fait voyaient le mal partout ou avaient abdiqué face à la vie.
Et elle a cette espèce de terreur non justifiée par ailleurs, qui de tomber sur son père un jour lors d'une passe finalement, ouvrir la porte de la chambre d'hôtel et tomber nez à nez avec son père qui... Puisque dans sa tête à elle, tous les pères sont aussi potentiellement des clients qui qui vont abuser, entre guillemets, ou se servir du corps des très jeunes filles, des jeunes filles qui ont l'âge d'être leurs propres filles. Enfin, elle a cette obsession-là des hommes qui couchent avec des filles qui pourraient être leurs propres filles. Il y a quelque chose... Alors que bon, enfin, a priori, il n'y a pas eu d'inceste avec son père. Enfin, il n'y a pas eu ça. Mais cette espèce d'hypocrisie, justement, de fou de Dieu, qui, à côté de ça, vont pénétrer dans ces chambres d'hôtel et faire ce qu'ils sont pas censés faire, finalement. Et vraiment, cette obsession de coucher avec des filles qui pourraient être leurs propres filles, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans le texte d'Arcan.
Eh bien, on va tout de suite écouter un extrait.
Mon père chasse les putains toujours plus, l'une après l'une après l'autre. Et un jour, il tombera sur moi. Sur la chair de sa chair dont j'ai la nausée, car elle est promise à l'oubli, et qu'il la reprenne, cette chair, après tout. Il en a certainement plus envie que moi. Qu'il la lance à bout de bras sur n'importe quel mur, à bout de queue. Qu'il me prenne, enfin, que ça finisse, qu'on en finisse avec cette tension de toujours entre les pères et les filles. Et comment oserait-on, pensez-vous? Eh bien, on oserait de la même façon qu'on ose ici, dans le cadre de ma putasserie. Dans cette chambre où mon père va bientôt finir par venir. Oui, il viendra tôt ou tard, avec la pensée que je serai peut-être derrière la porte. Et moi, je lui ouvrirai en pensant qu'il pourrait aussi s'y trouver. Et chacun, nous voyant là où il l'avait imaginé, va être choqué de se retrouver respectivement dans le rôle de la putain et du client. Et nous allons claquer la porte en criant au scandale. Mais où va-t-on dans cette société où les filles sont putains et les pères clients? Et depuis combien de temps s'en va-t-on ainsi? Depuis toujours, je le crains. Depuis que les pères ont une queue et les filles un corps frais à offrir en partage au monde entier. Le père et la fille retournant à leur vie avec l'impression qu'un drame s'est joué. Depuis longtemps prévu cependant, comme une fin de siècle. Elle et lui, face à face, en pensant « je le savais, je le savais ».
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Voilà cette obsession qui revient une parmi d'autres dans le texte de Nelly Arcan, putain, que vous avez choisi d'évoquer ce matin, Ovidie. L'obsession, la crainte, la hantise, et en même temps, c'est beaucoup plus paradoxal que ça, de voir son père débarquer, en fait, dans la chambre où elle est escorte. Et en même temps, Nelly Arcan, voilà, cette obsession lui permet aussi de voir la société comme une société, bah, pédophile, pédocriminelle. En fait, il n'y a pas des pères et des petites filles, il n'y a que des clients et des putains.
Oui, c'est comme ça qu'elle perçoit le monde depuis sa chambre de passe, hein, finalement. Elle observe la société, finalement, depuis sa chambre de passe. C'est quand même ça ce qui se raconte dans ce texte, avec cette crainte, effectivement, qu'un jour, elle va ouvrir la porte de la chambre de passe et elle va tomber nez à nez avec son père. Donc, évidemment que cette crainte, elle l'a pas réellement. Son père, il incarne tous les hommes. Tous les hommes qui viennent consommer des corps les uns après les autres, avec cette idée que effectivement on vit dans une société pédocriminelle, terme qu'elle n'emploie pas elle-même, mais c'est finalement ce
qui est assez récent d'ailleurs.
Qui est assez récent. Mais même le terme pédophile, elle n'emploie pas. Mais en revanche, elle va décrire des choses. Elle dit que finalement, quand on a 20 ans et qu'on est une putain, on est déjà flétri et fané, et qu'une putain vieillit plus vite que les autres. Elle raconte un moment qu'elle participe à une espèce de tournage ou cette photo pornographique où on lui demande de faire des couettes sur la tête, une petite jupette, une sucette, donc une espèce de mise en scène pédophile, faut être clair. Donc elle est finalement, son activité la conforte dans l'idée que les hommes se repaissent de la jeunesse et des femmes. Dont ils prennent possession, finalement. C'est quand même ça ce qui est... Il y a cette idée de consommation de chair fraîche. Et elle le voit dans sa chambre de passe, mais pour elle, elle l'élargit à l'ensemble de la société. Cette société pédophile, elle se vérifie, elle est confortée par cette idée-là. Quand elle observe, je sais pas, ne serait-ce que notre environnement culturel et médiatique, la publicité, les films...
Elle parle des magazines de mode, énormément.
Magazines de mode, mais elle a raison. Elle a raison. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de ces histoires de jeunesse dans les magazines de mode. Mais c'est vrai qu'on déguise On déguise des petites filles, enfin des jeunes filles de 14-15 ans, on les déguise en dames, quoi, dans les magazines de mode. Donc, quelque part, on va dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de regarder des films porno pour voir ces mises en scène-là. Ces mises en scène-là, elles sont constantes tout autour de nous. Elles l'étaient encore plus en 2001. Aujourd'hui, on fait un tout petit poil plus attention. Mais en 2001, oui, bien sûr que les jeunes filles qui étaient présentées, enfin les jeunes femmes qui étaient présentées comme des objets de désir, en fait, on se rendait compte que c'était des mannequins de 15-16 ans, quoi.
À la fin du texte de Putain, elle revient, de toute façon, elle ne cesse de revenir, on l'a dit, Ovidie, mais elle dit ça sur son père, elle dit « C'est bien vrai que mon père ne m'a jamais violée alors que j'étais sur ses genoux, les petites fesses qui bougent sur sa queue pour trouver un point d'appui, il ne m'a pas violée mais il a fait pire, il m'a prise sur ses épaules pour m'enseigner son point de vue sur le monde, son point de vue qui prend plaisir à traquer les gens heureux et à écraser les fleurs pour l'unique raison qu'elles ont poussé dans une serre et non selon la volonté divine en un lieu où la nature l'aurait commandé. Le point de vue de l'homme qui se châtie d'être vivant, il m'a transmis sa hantise du bonheur et m'a bercé pendant des heures en m'expliquant que je ne devais pas grandir, ni vieillir, que je devais rester à jamais petite, pour qu'il puisse me transporter dans sa poche, partout où le devoir l'appelle, en voyage d'affaires et dans les chambres d'hôtel.
Ouais. Je sais pas quoi ajouter à ça. Parce que j'ai l'impression que ce genre de passage-là, peut-être que je me trompe, hein, ce sont les passages où justement elle quitte ce côté point de vue universel depuis la chambre d'hôtel, où là elle est je dirais pas qu'elle a un compte à régler avec son père, puisque encore une fois je crois que je sais pas quoi en penser, à vrai dire. Ça fait partie des quelques passages de
qui vous résistent,
ou ouais, qui me résistent un peu, ou qui en tout cas qui sont pas les passages qui m'ont le plus touchée, parce que c'est pas forcément ceux que j'ai le mieux compris non plus.
Moi, ce que je trouve assez frappant, en tout cas, c'est que Nelly Arcand, elle arrive à dire, sans le dénoncer, des sujets en fait qui, et vous l'avez dit tout à l'heure, Ovidie, qui nous hantent aujourd'hui. C'est-à-dire donc la rivalité, la sororité, l'hypersexualisation des petites filles, les romans familiaux ont quand même, c'est ça quand même la mode éditoriale actuellement, c'est-à-dire le rapport avec son père, avec sa mère, le poids de l'héritage. Elle en parle aussi, les injonctions. En fait, finalement, elle avait quand même dit, sans le dénoncer, c'est-à-dire sans qu'on soit dans des thèses féministes, ce qui en fait continue, 25 ans plus tard, à être une matrice dans laquelle on va penser quand même les rapports de genre, l'égalité des hommes et des femmes, la manière dont on va écrire, qu'est-ce qu'on va dénoncer, la culture du viol, la culture de l'inceste. On a tout quand même dans ce texte des 2001.
Ouais, on a tous les ingrédients, effectivement, et c'est pour ça que ce texte, il est vraiment important, je dirais, dans notre histoire, dans l'histoire des féminismes, même si ce n'est pas un texte féministe, il est quand même vraiment important et fondamental. C'est vrai qu'il y a tout. Il y a tout. Et cette matrice, ce laboratoire, je dirais, ouais. Le laboratoire, c'est cette chambre de passe, vraiment. C'est cette espèce de lieu où on observe vraiment l'intégralité de la société, où tous les ingrédients y sont, finalement. Tout ce qui se passe à l'intérieur de cette chambre de passe reflète vraiment, est à l'image de l'ensemble de nos rapports hommes-femmes dans la société. Il y a vraiment ce... Alors, je ne sais pas si c'est la matrice, je dirais le laboratoire. Mmh. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où Nelly Arcand ajouterait tous ces ingrédients d'oppression, finalement, et arriverait à en faire un cocktail où il y a tout. Absolument tout.
Il y a aussi même la question de l'identité, parce que quand elle dit que tous les pères et toutes les petites filles sont des clients et des putains, elle parle elle-même du nom. Il y a les bonnes sœurs qui se rebaptisent, il y a les prostituées qui se rebaptisent. Elle parle des clients, elle dit il s'appelait Michael, après avant c'était Jack.
Mais en fait ils sont interchangeables.
Ils sont interchangeables. En fait cette question du nom, elle est incroyable, parce qu'en fait l'image des femmes se démultiplie de miroir en miroir, et les hommes sont une armée d'hommes en fait. Et elle dit on les reconnaît mieux à leur queue qu'à leur visage.
Ce qui est important de comprendre chez Nelly Arcand, c'est qu'il y a un égarement, je pense, dans sa propre identité. Je pense qu'elle s'est égarée dans ses multiples identités. Elle a plusieurs identités, Nelly Arcand. Nelly Arcand, c'est même pas son nom de putain et c'est même pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Isabelle Fortier. D'ailleurs, Isabelle Fortier et Nelly Arcand n'ont pas le même âge. Puisque Nelly Arcand est plus jeune de 3 ans qu'Isabelle Fortier.
Ah oui, voilà, on ne sait pas si elle est née en 71, 73.
Bon, on le sait, elle s'est rajeunie de 3 ans, voilà, toujours dans sa crainte de vieillir, elle s'est rajeunie de 3 ans. Et donc elle naît Isabelle Fortier, Comme les bonnes sœurs, elle se rebaptise quand elle devient travailleuse du sexe. Elle se fait appeler, entre autres, Cynthia, pas que, hein, mais elle se fait appeler Cynthia.
Du prénom de sa sœur
décédée. Donc elle prend finalement le prénom de sa sœur comme un fantôme finalement, hein, pour la faire revivre, comme si sa sœur était un peu le mausolée de, enfin comme si elle était le mausolée de sa sœur, voilà. Donc il y a un problème d'identité, je dirais, chez Nelly Arcand. Donc elle prend ce nom d'écrivaine qui est Nelly Arcand, et à la fin, il me semble qu'elle ne sait plus elle-même qui elle est. Et il me semble qu'elle souffre aussi, ça c'est ce qu'elle dit dans son roman suivant qui est Folle, où elle parle justement de son rapport en tant que personnalité publique avec les hommes, et où elle dit qu'il y a malentendu, c'est-à-dire les hommes l'aperçoivent autrement que ce qu'elle est réellement, puisqu'ils l'aperçoivent comme Nelly Arcand et non pas comme Isabelle Fortier. Et donc elle se retrouve prise dans cette multiplicité d'identités dont elle n'arrive pas à se sortir, et où elle n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la bonne finalement. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant chez Arcand, assez fascinant et assez destructeur malheureusement.
Oui, bah, y a encore le côté du piégé en fait. Disons que...
Ça ne pouvait que mal se terminer, cette affaire. Et en fait, quand on regarde vraiment l'ensemble de son œuvre, on se rend compte qu'elle n'a fait que annoncer son suicide tout du long. Elle en parle... Elle en parle dans Folle, elle en parle dans À ciel ouvert, elle en parle dans Paradis clé en main, qui ont vraiment son dernier texte, qui lui n'est même plus au seuil, je sais même plus chez quel éditeur québécois il est sorti. Mais
ouais. Et il est bien.
Oui, mais il est désespérant dans la mesure où il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est dans Paradis clé en main qu'elle décrit et on me retrouvera pendue avec une taie d'oreiller sur la tête, etc. Enfin, donc elle annonce vraiment clairement tout le temps son suicide.
Chaque jour en est un de trop dans le monde de la jeunesse. Il faut du temps pour le comprendre, pour admettre que nous avons vieilli malgré l'effort et que notre vieillesse n'en est pas une. Que nous ne sommes ni jeunes ni vieilles à présent, car nous ne sommes plus dans la vie, mais ailleurs. Devant un miroir sans doute à danser et putasser pour tout un chacun, pour le plaisir de la foule qui a vieilli avec nous et qui a aussi oublié de vivre. Et pour combien de temps encore devrais-je danser et putasser ainsi? Je ne le sais pas. Jusqu'à ce que les miroirs ne me renvoient plus que ma misère de putain et ma hantise du ventre qui s'arrondit. Jusqu'à ce qu'on me désigne ma place du côté des spectateurs, du côté des revendicateurs de la jeunesse des autres. Et peut-être qu'à ce moment-là, je sourirai sans la pensée des rides que le sourire fait apparaître. Ces rides qui auront plus de vie que toutes mes années de jeunesse. Que cette mascarade de putain grimaçante est prête à jouir. Et je vivrai heureuse le temps de me déshabiller de mon sexe. Je connaîtrai quelques minutes de soulagement. Mais ensuite, je me souviendrai de ma mère. Car il faut bien que les plus beaux moments soient marqués par la vision de son cadavre. Je sourirai alors vers le bas. Et mes rides iront se penchant si bas qu'il ne sera plus possible de lever les yeux au ciel. Et à ce moment... il n'y aura plus pour moi que le sol et les lits. Et j'irai comme ma mère me couvrir le visage d'un drap en réclamant l'oubli. Je resterai muette, car je n'aurai de souvenir que celui d'une jeunesse que je n'aurais pas su vivre.
Il y a les injonctions à la beauté. Et il y a aussi à la fois cette peur du temps qui passe, cette injonction à être jeune, mais vous l'avez évoqué, Ovidie, presque en fait des annonces qui vont un petit peu éclore par-ci par-là de sa mort. C'est-à-dire qu'elle ne supportera pas de vieillir. Elle imagine qu'elle pourrait être heureuse avec quelques rides, mais c'est presque impossible en fait à imaginer.
Je crois qu'elle en a bien conscience, hein, que c'est un idéal absolument impossible et que ça ne se produira pas et qu'elle sera toujours... elle sera de plus en plus malheureuse de voir, de prendre de l'âge en fait. Hein. Je veux dire, c'est vu que sa plus grande hantise c'est de vieillir, évidemment, ça ne peut que mal se terminer cette histoire. Il n'y a pas de sagesse ou de je sais pas quoi possible. À partir du moment où on a toute sa vie fait en sorte d'être au cœur du désir des hommes, évidemment qu'on ne peut pas vieillir sereinement. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle en a bien conscience de ça, parce que elle a été vraiment au cœur de ce désir-là. Elle a tout fait toute sa vie entre je sais pas le cardio à jeun, le peeling, le nez à refaire,
la silicone, elle parle de la silicone.
Mais bien sûr.
Quand elle parle aussi, il y a ces pages qui sont assez incroyables, il y a 4-5 pages d'affilée sur son rapport à la nourriture.
Ouais. Elle parle de creuser ses côtes comme on creuserait sa tombe, c'est très beau, ouais.
Où elle parle de la pomme, elle mange les pommes et elle ne supporte pas de ne pas manger un nombre de bouchées impair. Et donc elle essaye de réfléchir sur pourquoi elle ne supporte pas les nombres pairs. Elle parle de ses parents. Enfin, il y a des pages qui sont incroyables sur la comptabilisation des bouchées par rapport à son corps. Et ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, Ovidie, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de sagesse. Elle n'en tire pas de leçon parce qu'il y a un truc d'absence d'issue.
Ouais. Il y a pas de sagesse, non, effectivement, et il y a pas d'espoir non plus. Et puis, de toute façon, cette histoire d'anorexie, il y a une volonté de faire disparaître son propre corps, disparaître soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de se s'auto-réduire à néant, finalement, vraiment en étant de plus en plus maigre et en disparaissant. Ouais.
Est-ce que à la fin du texte, néanmoins, il n'y a pas une manière de percevoir, de sauver, d'être plus empathique avec sa mère? Sur le côté, justement, larve, on l'entend dans ce texte, et elle dit, voilà, d'un côté, elle sera horrible de tourner les yeux non plus vers le ciel, mais vers le bas, d'être dans le lit, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas un soulagement? Est-ce qu'il n'y a quand même pas cette toute petite entr'ouverture de d'espoir un petit peu?
Je ne l'ai pas perçu. C'est marrant, hein. J'essaie de me rappeler de ce passage-là et je ne l'ai pas perçu comme tel. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que j'en ai retenu. Et rien que ça, je trouve ça intéressant que justement, ce ne soit pas ça que j'ai retenu. Donc, après, concernant vraiment sa mère, cette histoire de larve, etc., il ne faut vraiment pas oublier, ça c'est quelque chose dont elle s'est défendue elle-même, hein. C'est que c'est de la littérature.
Ouais.
Et c'est de la fiction, c'est de l'autofiction ou c'est de l'autonarration, on appelle ça comme on veut, mais ça reste de la fiction. Donc on n'est pas là pour tout prendre pour argent comptant et dire son père il est vraiment comme ça, sa mère est vraiment comme ça. Il y a énormément de choses qui relèvent de la fiction et de la littérature avant toute chose. Et je pense que c'est ça son grand désespoir finalement, c'est qu'on n'ait pas reconnu son texte comme un texte de fiction.
Chanson Ovidie pour introduire cette séquence de fin d'émission. Après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez vraiment pas. Qui avez-vous choisi ?
Pour Georges Bataille, vraiment. Georges Bataille, c'est un auteur que j'ai dû lire quand j'avais, je sais pas, quelque chose comme 18 ans. J'étais à la fac à ce moment-là. Et allez savoir pourquoi, c'était une période où il y avait une espèce d'engouement autour de son œuvre, du côté de plein de vieux profs de fac un peu dégueux, quoi. Et donc, je me souviens, je l'avais lu à l'époque. Curieusement, ça m'avait un peu emballé. Et il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était Histoire de l'œil ou Madame Edouarda ou je ne sais plus quel texte sur lequel je suis retombée. Je me suis dit mais what ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment est-ce qu'on a pu lire des trucs pareils ? Non, moi, je suis totalement hermétique à l'œuvre de Bataille. Alors visiblement, je dois être trop sotte. Je pense que c'est ça parce qu'on a essayé de me le vendre dans tous les sens en disant mais si machin. On m'a sorti tous les arguments possibles et inimaginables et je pense que je suis trop sotte pour kiffer Bataille. Ouais, vraiment.
Qu'est-ce qui vous a rebuté quand vous l'avez réouvert ?
Je me suis dit, il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, j'ai même pas vraiment de...
Trop obscène.
En fait, il y a d'autres textes qui m'ont fait le même effet. Par exemple, ne serait-ce que Sade, en fait. Mm. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait.
Pourquoi ?
Je comprends l'intérêt qu'il y a eu au moment de la réédition par Pauvert des œuvres de Sade. Je comprends qu'il y ait un intérêt à ce moment-là, mais je pense que c'est une espèce de bombe dans laquelle qu'il faut pas mettre entre toutes les mains en réalité, quoi. Enfin, je sais pas, je vois pas. Enfin, c'est un. Je suis même à court d'arguments tellement je comprends pas, en fait.
Vous comprenez pas l'engouement, ouais. C'est pour ça, joue, c'est vraiment ce que ça veut dire.
Je pense que le terme résister est vraiment le bon, quoi. C'est que vraiment ça me résiste en tout point. C'est-à-dire, j'ai même pas envie de prendre le temps. De dépiauter, d'expliquer pourquoi il faut brûler Sade, quoi, comme pour reprendre Simone de Beauvoir. Mais ouais, flemme, quoi.
Merci beaucoup, Ovidie. De vous, on peut lire Slut Shaming, faire payer les femmes. C'est paru aux éditions de La Découverte. Je rappelle que vous avez adapté et mis en scène votre texte La chair est triste, hélas, paru aux éditions Julliard. Alors, c'est complet, mais ce sera repris en 2027 au Théâtre de l'Atelier à Paris avec Anna Mouglalis. Et je précise que pour lire Putain, Folle aussi de Nelly Arcan, les textes dont on a parlé ce matin, notamment Putain, eh bien, ces textes sont disponibles aux éditions du Seuil et aussi en version poche au Point notamment. Merci encore. Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Anaïs Isbert à la lecture des textes, à Nicolas Berger à la réalisation, à Julien Moulet à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.